seconde sans ressource, tu demeures immuable, la grâce de Dieu se grave dans ton ainsi beau tableau, dans les temps d'autrefois et avant les siècles, dans ce même premier chapitre. Il nous a parlé de la grâce qui nous a été donnée dans le Christ Jésus avant les temps des siècles, qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ. Cette grâce à laquelle tant de fois Timothée est recommandée par l'apôtre Paul, le début du chapitre 2, nous montre : crois donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est dans le Christ Jésus. Enfin, une troisième ressource, c'est la parole même, qui est appelée les saines paroles, ce qui avait été confié par Dieu d'une façon particulière à l'apôtre Paul. Les saines paroles, comme nous aussi, il est parlé du bon dépôt que nous avons à garder. Comment ? Par notre intelligence, par quelques capacités exceptionnelles confiées à l'un ou à l'autre ? Non. La parole de Dieu dit « Garde le bon dépôt par l'Esprit Saint qui habite en nous ». Et les chapitres suivants vont montrer également d'autres de ces ressources qui ne changent pas. Et combien il fait bon le savoir, le réaliser dans les temps pénibles de faiblesse que ceux que nous devons connaître. Au chapitre deuxième, nous avons vu le témoin du Seigneur comparé à un soldat, à un athlète et à un laboureur. Comme soldat, il est dépendant de son maître, ne cherchant plus chose, ne faire ce qui plaît à son maître, à celui qui l'a enrôlé. Comme athlète, il manifeste l'obéissance à la parole de Dieu, il combat selon les lois, et enfin, comme laboureur, il réalise ce qu'est la patience. Dépendance, obéissance, patience, voilà les manifestations de la vie de Dieu qui sont sans cesse demandées d'un témoin et d'un témoin qui désire être fidèle. Nous étions arrêtés sur le verset 7e. Considère ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Ce dernier verset de notre méditation au jour de Pentecôte est un beau verset comme introduction à notre méditation de ces jours. Nous sommes exhortés à considérer ce que l'apôtre dit, pas seulement ce qu'il dit à Timothée. Il n'est pas dit « considère ce que je te dis ». Considère ce que je dis, c'est-à-dire tout l'enseignement confié à l'apôtre, l'ensemble des révélations qui vont être faites. Considère ce que je dis. Et alors, pour que tu puisses entrer dans la compréhension de tes pensées, le Seigneur est là te donnant l'intelligence et veut nous la donner aussi. Le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Heureux sommes-nous de connaître cette intelligence qui n'est pas l'intelligence naturelle que Dieu a donnée aux hommes. C'est une intelligence qui appartient à la vie nouvelle que nous avons, à la vie de Dieu. Eh bien, Seigneur veut bien nous la communiquer pour que nous puissions entrer dans la compréhension de sa parole et d'une façon particulière des enseignements confiés à son serviteur, l'apôtre Paul. Nous avons au verset 8, premier passage de notre lecture, une exhortation bien importante. En fait, l'apôtre ramène tout à la personne de Christ, Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, de la semence de David, selon l'Évangile. Souviens-toi de Jésus-Christ, de Jésus, le nom de l'humanité de notre Seigneur, ce nom qu'il a reçu quand il est venu dans ce monde, un nom combien significatif, Jéhovah Sauveur, c'est ce que signifie ce nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera le peuple de leurs péchés. Es-tu Christ, ce Messie annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament, loin du Seigneur, le Christ qui apparaît dans ce monde, après avoir été annoncé, soit comme Messie souffrant, soit comme Messie devant régner, nous l'avons là dans la personne de Jésus, l'humble Jésus de Nazareth. Il est celui qui est ressuscité d'entre les morts, et une telle désignation dirige nos regards vers le ciel. Notre Seigneur étant, il est ressuscité d'entre les morts, il a été exalté à la droite de Dieu, il est maintenant dans le ciel. Nos regards se dirigent vers le ciel. Tandis, quand il est parlé de la seconde de David, ou comme dit la parole de Dieu au moment où elle s'achève, la postérité de David, nos regards se dirigent vers la terre, où le Seigneur un jour régnera tel que le vrai David, roi des rois. Mais Seigneur et Seigneur, c'était là l'évangile de l'apôtre Paul, l'évangile de Dieu confié à l'apôtre Paul, et ce qui a été donné à l'apôtre Paul, tout d'abord, c'est de mettre en évidence la glorieuse personne de Jésus-Christ, ressuscité dans les morts, la semence de David.
Et le centre de tous les conseils de Dieu, comme il est la révélation parfaite de toutes ses pensées. Tout ce qu'est Dieu et tout ce qu'il a voulu révéler de lui-même, cette révélation s'est faite en Jésus-Christ. C'est pourquoi nos cœurs qui appartiennent à Dieu, parce que nous sommes Dieu, nos cœurs doivent être attachés toujours plus profondément à une telle personne. L'apôtre Paul réalisait, c'est ce que nous trouvons dans les Galates, ces deux choses qui sont indispensables pour le chrétien. D'abord, Christ vivait en lui, c'était le nouvel homme. Il était dans Christ, et Christ était dans lui. C'est le nouvel homme, c'est le point de départ. Et puis une fois qu'on a converti, qu'on a cette nouvelle nature, qu'on a la nature de Dieu, il nous faut un objet. On ne peut pas vivre sans objet. Et cet objet, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit ce que je vis dans la chair, j'avais le vie dans la foi, parce que la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est pourquoi cette exhortation est très importante pour nous, plus que jamais, parce qu'il nous faut Christ. Il faut que Christ remplisse notre cœur, que Christ remplisse notre vie. C'est pourquoi souviens-toi de Jésus.
Nous souvenons d'un Christ ressuscité. Sans doute, nous conservons pieusement dans nos cœurs la mémoire d'un Christ mort, d'un Christ mort pour nous, pour nos péchés. Mais à cela, il y a intimement le Christ ressuscité pour notre justification. Et celui qui a été ici-bas, méprisé, rejeté, il est maintenant assis à la droite de Dieu. Et comme on l'a dit, nos pensées se concentrent maintenant sur cet objet glorieux, Christ là-haut. Aux Colossiens, l'apôtre dit, pensez aux choses qui sont en haut. Mais pourquoi penser aux choses qui sont en haut ? Parce qu'il y a là la voie qui nous est réservée. Non, parce que Christ est assis à la droite de Dieu. Il est la définition même de cet en haut. Il remplit le ciel d'un Christ ressuscité. Et Paul ajoute selon l'évangile. Mais son évangile lit l'homme nouveau à Christ de toute manière. L'évangile de Paul nous lie à un Christ mort pour nous. Il nous lie à un Christ ressuscité. nous souvenons d'un Christ ressuscité, mais nous-mêmes, nous sommes ressuscités avec lui. Paul parle de son évangile, mon évangile. Oh, il n'y a pas un évangile propre à chacun des écrivains du Nouveau Testament. C'est un seul et même évangile. Mais Paul faisait tellement sienne toutes ces vérités précieuses dont il était le dépositaire et le messager, que c'était son évangile. D'ailleurs, n'est-ce pas, il n'y a pas autrement au début de l'Épître aux Romains, c'est l'évangile de Dieu, et c'est le même évangile, bien sûr. L'évangile de Dieu pour son Fils. Mais nous touchons à l'évangile de Dieu touchant son Fils. Nous trouvons d'ailleurs le même rappel de la semence de David dans cette présentation de l'évangile au début des Romains. Son Fils, né de la semence de David, son affaire, et déterminé Fils de Dieu en puissance, selon l'Esprit de sainteté, par la résurrection des morts. Il y avait la résurrection de Christ, selon ces expressions du début des Romains, sont la manifestation, trouvons ce mot déterminé, la manifestation publique de ce qu'était celui et qui était ainsi tiré de la mort, ouvrant un chemin de mort. Ce n'est pas seulement, bien sûr, ressuscité des morts, mais ressuscité d'entre les morts, il y a là quelque chose de nouveau, nous pourrions dire comme une sélection qui se fait, parmi ceux qui sont touchés par ce saint péché, en voilà un qui ressuscite. Le premier, s'il s'agit d'une résurrection pour le ciel, il y a eu des résurrections pour la terre, bien sûr, mais il ouvre un chemin nouveau, un chemin de vie, un chemin de résurrection. On comprend l'expression de Paul, comment il insiste là-dessus. Souviens-toi de cela. Souviens-toi de ce qu'il est, ce Jésus-Christ. C'est celui qui inaugure pour nous ce chemin nouveau de la vie. Maintenant, Christ est ressuscité, prémisse le sceau de Saint-Andoni. Christ ressuscité entre les morts. Tout le champ nouveau, le monde nouveau, ouvert par cette résurrection, évoqué là par ce souvenir. Ressuscité d'entre les morts, inaugure donc la nouvelle création, avec tout ce qu'elle comporte de bénédiction éternelle, y compris la relation actuelle que nous avons avec le Père, la relation d'épouse avec Christ. Mais il est remarquable qu'elle est le pas sur la deuxième expression, c'est-à-dire la semence de David. Parce que là, nous revenons à la terre, comme nous l'avons entendu tout à l'heure. Un roi régnera en justice, le gouvernement sera sur son épaule, il y aura des bénédictions sur la terre, le temps du rétablissement de toutes choses, mais c'est parce que Christ est mort et ressuscité d'entre les morts que ces bénédictions terrestres seront un jour établies et connues, et l'Église règnera avec celui qui portera la gloire. Mais ressuscité d'entre les morts, cela nous ramène à Colossiens 1. Il est le premier-né d'entre les morts, il est le commencement de la création de Dieu.
Pierre souligne dans son troisième discours au chapitre 3 du livre des Actes, un discours en fait dont la portée est celle-ci, la gloire terrestre de notre Seigneur, ce millénium qu'il établirait un jour, alors si les enfants d'Israël voulaient bien, une dernière fois rappeler à la repentance, s'ils voulaient bien se repentir, alors le Seigneur aurait pu descendre à nouveau sur cette terre pour établir la gloire de son règne. Et on voit combien l'apôtre Pierre prend soin de parler d'une part de la résurrection du Seigneur, comme on souligne maintenant, mais quand il est parlé du prince de la vie, lequel Dieu a ressuscité d'entre les morts, et un petit peu plus loin, repentez-vous donc et vous convertissez pour que vos péchés soient effacés, en sorte que viennent des temps de rafraîchissement devant la face du Seigneur et qu'il envoie Jésus-Christ qui vous a été préordonné, lequel il faut que le ciel reçoive jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes de tout temps. Ces temps de rafraîchissement ou ces temps du rétablissement de toutes choses, c'est précisément ce règne glorieux que notre Seigneur établira un jour, c'est-à-dire bientôt sur cette terre. Pour cela, il a fallu que le Seigneur meure et soit ressuscité, ensuite exalté dans la gloire du ciel, lequel il faut que le ciel reçoive. Comme il fallait que le Christ mourût, il fallait que le Christ ressuscitât, il fallait aussi que le ciel le reçût, d'où aussi notre Seigneur viendra bientôt. Et l'apôtre Paul peut le dire à la fin de sa première épître aux Corinthiens, il faut qu'il règne. Mais de telles gloires terrestres sont en rapport, on ne le redira jamais fort avec la mort et la résurrection de notre Seigneur.
C'est ce qu'exprime d'ailleurs le nom glorieux du Seigneur Jésus lui-même, Jésus-Christ. Jésus, équivalent de Jéhovah Sauveur. Jah, contraction de Jéhovah, auquel le terme de Hoséa est joint pour former Jah, Hoséa ou Jésus. Tu appelleras son nom Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. C'est le nom personnel du Seigneur qu'il prend en venant dans ce monde comme homme. Titre qui amène, qui lui donne la suprématie sur toute chose. Jésus, Jéhovah Sauveur, l'Éternel de l'Ancien Testament. Christ, a-t-on dit, est un nom d'office, un nom de position que Dieu lui a donné. Et le livre des Actes vient d'être rappelé devant nous. Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Christ, Messie, moins, c'est le même terme. Telle est la position de Christ maintenant, la position de Jésus maintenant, glorifié au ciel. Mais nous ne voyons pas encore que toute chose soit assujettie sous ses pieds. Mais il possède le droit et tous les titres pour exercer la domination sur toute chose, comme il l'exerce au ciel maintenant, il l'exercera bientôt sur la terre habitée tout entière. Psaume 72 nous montre l'étendue de cette domination qui écrasera tous ceux qui s'opposent à celle-ci. Seigneur descend en flamme de feu pour exercer sa vengeance, pour exercer la vengeance contre tous ses ennemis. Et établir enfin ce règne de paix et de justice. Et moi, c'est Dieu qui parle dans le psaume 2, et quelles que soient les entreprises de tes hommes. Et demain, ils se ligueront tous ensemble avec les armes les plus perfectionnées pour empêcher l'établissement de son règne. Feront la guerre à l'agneau, mais l'agneau les vaincra, car il est, l'expression a été rappelée tout à l'heure, le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Et moi, c'est Dieu qui parle. J'ai oint mon roi sur Sion, la montagne de ma sainteté. Tel est le propos de Dieu à l'égard de Jésus. Et les nations vont se déchaîner. Rien ne pourra empêcher Dieu d'accomplir le dessein qu'il a formé d'établir Jésus-Christ, Seigneur de toutes choses. Jésus Christ, son nom personnel, son nom qui, le titre qui est joint et qui exprime la suprématie, la domination que Dieu lui a donnée, comme ressuscité d'entre les morts, expression qui vient d'être expliquée devant nous, et il convient en effet de se souvenir que c'est une expression que les disciples ne comprenaient nullement. Personne n'avait jamais entendu l'expression « ressuscité d'entre les morts ». Dans l'Évangile selon Marc, le Seigneur parle à ses disciples et il leur dit de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, sinon lorsque le Fils de l'homme serait ressuscité d'entre les morts. Marc 9, verset 9. Et tout de suite, ils gardaient cette parole sans se demandant ce que c'était que « ressuscité d'entre les morts ». Nous n'avons jamais entendu cela. Que veut-il dire par cette expression « ressuscité d'entre les morts » ? Nous connaissons la vérité générale de la résurrection des morts au dernier jour. Tous les morts devront ressusciter. Mais qu'est-ce que veut dire « ressuscité d'entre les morts » ? Opérant ainsi, selon l'expression citée tout à l'heure, une sélection, une partie des morts qui ressuscite, tandis qu'une autre partie reste dans leur sépulcre, pour faire partie, cela, de la résurrection des morts. Colossiens 1, la résurrection d'entre les morts, qui inaugure la création nouvelle, au-delà de la mort, sur un terrain nouveau, création inaugurée par sa résurrection, création dont il est le chef et le centre. Mais le livre d'Apocalypse, livre de jugement, non plus seulement en rapport avec les croyants, mais avec tous les hommes, Jésus est présenté comme étant la résurrection des morts, de tous les morts sans exception. Après la première résurrection d'entre les morts, il y aura une résurrection de jugement, après le règne, la résurrection des morts. Parce qu'un homme est mort et ressuscité, tous devront ressusciter, mais chacun dans son propre rang. Premièrement, les croyants, Christ, en étant les prémices de cette nouvelle création. Christ, les prémices, ensuite, ceux qui sont du Christ à sa venue. Et enfin, après le royaume qu'il aura administré à la gloire de Dieu, la résurrection de tous les morts qui comparaissent devant le grand trône blanc.
Une telle révélation des gloires de notre Seigneur. Le fait qu'il est descendu dans la mort, qu'il en est sorti victorieux par la puissance de Dieu, qu'il a été ressuscité par la gloire du Père, et le fait que tout est remis entre ses mains, le Père a tout remis entre les mains du Christ. Tout cela doit trouver de l'écho dans nos cœurs, ce n'est pas seulement une connaissance intellectuelle des choses. Il faut que cela trouve de l'écho dans nos cœurs. Et si la parole et l'esprit nous présentent de telles vérités, c'est pour quoi faire? C'est pour réveiller dans nos cœurs de profondes affections à l'égard de celui que Dieu a placé au-dessus de tout. Auquel Dieu a donné un nom au-dessus de tout et a placé au-dessus de tous les cieux. Dans quelle mesure nous sommes intéressés, nous chrétiens, nous rachetés, nous unis à Christ, dans quelle mesure nous sommes intéressés aux gloires du Seigneur? Dans quelle mesure nous recherchons dans les Écritures, par la prière et dans la dépendance du Saint-Esprit à découvrir ainsi les gloires de celui qui remplit les Écritures? Sondez les Écritures, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et tout cela ne peut s'opérer que par le Saint-Esprit agissant en nous et par une foi à l'œuvre qui désire saisir ces choses et entrer toujours plus dans la connaissance de la gloire d'un tel Sauveur et d'un tel Seigneur à qui nous appartenons pour toujours, pour l'éternité.
Intéressant aussi
de souviens-toi. C'est en effet quelque chose qui est tout à fait contraire à l'esprit de l'homme. Il s'agit ici d'un retour vers le passé, vers quelque chose qui a été révélé, alors que l'esprit de l'homme le pousse le plus souvent vers des choses nouvelles, inventées. C'est un retour à ce que Dieu a révélé, à ce que Dieu lui-même est dans sa nature, à sa fidélité par conséquent. Et cette expression, nous le savons tous, est très souvent utilisée dans la parole. Je rappellerai simplement trois cas bien particuliers. Dans le chapitre 12 de l'Ecclésiaste, où il est dit, et c'est à ce moment-là un avertissement à l'homme naturel, « Et souviens-toi de ton Créateur dans les jours de ta jeunesse. » Il est rappelé aussi dans le chapitre 44 du prophète Ésaïe à Jacob de se rappeler ces choses, de se souvenir de ces choses, c'est-à-dire de toutes les choses qui lui ont été enseignées. C'est là aussi un appel à un examen de conscience et à un retour à une conduite plus fidèle à l'égard de Dieu. Ici, cela va encore plus loin. Souviens-toi de Jésus-Christ. C'est à la fois un avertissement, une exhortation, mais c'est aussi le secret de la vie chrétienne. Et signalons que c'est adressé ici à quelqu'un qui apparemment n'avait pas tellement besoin, puisque Timothée était quelqu'un qui était fondé dans la foi, qui était avancé, qui connaissait la parole. Eh bien, à lui pourtant, l'apôtre, inspiré par l'Esprit, éprouve le besoin de lui dire « Souviens-toi de Jésus-Christ ». À plus forte raison pour nous, et nous pourrions évidemment nous poser la question inverse, combien souvent nous oublions Jésus-Christ dans nos pensées, dans notre conduite, dans nos actes. Et pourtant, cela est présenté ici, justement, comme non seulement le secret de la vie chrétienne, mais comme la nature même de cette vie chrétienne, que chacun des rachetés du Seigneur est appelé à mener.
Quand l'enfant d'Israël était souvent exhorté à se souvenir de Jéhovah, à se souvenir de l'Éternel des armées, le livre du Deutéronome contient plusieurs fois de tels appels. Le livre du Deutéronome, qu'on a appelé d'ailleurs le livre du rappel ou le livre du souvenir. Mais l'expression est encore plus forte quand il est dit, par exemple, au livre de l'Exode, « C'est là mon nom, je suis celui qui suis, c'est là mon nom ». Éternellement, c'est là mon mémorial de génération en génération. Et bien des siècles plus tard, après de telles paroles de l'Éternel, par le moyen du prophète Osée, un nouvel appel, l'Éternel, le Dieu des armées, l'Éternel est son mémorial, le mémorial du peuple d'Israël. Au chapitre 12 de ce livre du prophète Osée, l'Éternel est son mémorial. Il est tout l'objet du mémorial, soit dans le livre de l'Exode, soit dans l'Osée, dans d'autres passages encore. Alors que dire s'il s'agit maintenant de la personne de Dieu révélée dans la personne de Jésus-Christ? Que devons-nous penser dans tes rappels? Souviens-toi de Jésus-Christ, c'est lui qui doit être l'objet de ton souvenir, c'est-à-dire pensant constamment à lui jour après jour, pas seulement de temps en temps, prononcer le nom de Jésus-Christ, montrant par là que nous nous souvenons d'une telle personne, mais que Jésus-Christ soit réellement l'objet de notre souvenir, qu'il soit notre mémorial, que nous exprimons d'une façon très particulière à l'heure de l'adoration le dimanche matin. Mais constamment, en effet, c'est bien juste, jour après jour, nous devions nous souvenir de notre Seigneur, penser à lui, dans lequel toutes les ressources sont concentrées.
Les pères ont dit, l'ennemi a toujours comme but devant lui de substituer à la vie divine, en activité, chez le croyant ou dans l'assemblée, une simple forme extérieure. Quelqu'un disait une routine, un mécanisme religieux. Et ce mécanisme religieux, détaché de Christ, devient toujours un système qui se trouve être retranché inévitablement par le jugement. Il n'y a pas de vérité en dehors de Christ. Il n'y a pas de vie divine en dehors de Christ. Il en est la source, il en est le moteur. Et nous ne pouvons rien détacher de Christ. Nous ne pouvons pas marcher sans Christ. Et toute vérité est liée à Christ. Il en est la substance même. De sorte que nous contenter d'une chose extérieure risque de nous écarter du Seigneur Jésus. De celui qui est à la base de notre vie, de tous les motifs qui la gouvernent, d'où l'exhortation bien nécessaire en disant « Souviens-toi de Jésus ». Pas seulement de certaines vérités, mais de Jésus-Christ qui en est la substance.
Et précisément de faire en sorte qu'on ne se souvienne pas. Bon, vous lire un verset dans Jérémie, verset 11, chapitre 11, Jérémie 11. Voilà ce que disent les hommes. En parlant du Seigneur, détruisons l'arbre et son fruit, remanchons-le de la terre des vivants, afin qu'on ne se souvienne plus de son vent. Qu'on ne se souvienne plus de son vent. Mais la foi répond au psaume 119 et au verset 75. Je me suis souvenu de ton nom pendant la nuit.
Tel, pour créer entre nos cœurs et nos âmes une distance entre Dieu et nous, que la forme, que l'habitude, que la routine. Et plus on s'établit sur un tel terrain, et plus on s'enfonce, et plus on s'éloigne de Dieu, plus on s'éloigne de Christ. Comment puis-je me souvenir du Seigneur si j'ai des besoins profonds, secrets dans mon âme, de le connaître. Alors je saurais déployer l'activité spirituelle nécessaire pour me souvenir de lui, pour le rechercher, lui, pour apprendre à connaître lui. Mais il faut pour cela un exercice constant, tous les jours. Il faudrait que nous puissions, parce que le Seigneur Jésus, notre Dieu, aime à entendre la voix de ses bien-aimés. Et nous en rappeler cela. Et nous devrions réaliser chaque jour, dès le matin, ce que David pouvait exprimer dans ses paroles si précieuses. Le matin, tu entendras ma voix. Comment voulez-vous, en ce moment, dès le matin, en recherchant Dieu, je ne puisse pas me souvenir de Jésus-Christ, celui qui fait les délices de Dieu. Le matin, je disposerai ma prière devant toi. Ce n'est pas quelque chose à prendre par cœur, c'est quelque chose à réaliser devant Dieu et avec Dieu. Et puis la foi exerçant et chantant. Que Dieu veuille faire que notre vie secrète avec Dieu soit marquée par une telle dépendance, et alors nous serons liés dans tout notre être à celui que Dieu nous a donné dans son amour immense, et nous ne pourrons pas nous souvenir d'un tel sauveur et d'un tel Seigneur.
Dans l'expression, on se souvient, dans l'histoire de Joseph, de sa demande au prince des chansons, « Mais souviens-toi de moi, quand tu seras dans la prospérité, et use, je te prie de bonté envers toi. » Mais le chef des échansons ne se souvint pas de Joseph et l'oublia. Ne se souvint pas de Joseph malgré les grands services qu'il avait rendus et il l'oublia. Nous avons aussi oublié comment la grâce de Dieu est intervenue envers nous, des forces s'adressant aux croyants entre les nations et bien sûr nous dira. C'est pourquoi souvenez-vous que vous, d'autrefois, les nations, vous étiez dans cet état d'éloignement sans remède. Souvenez-vous comment la grâce de Dieu a été déployée envers vous. Que nul ne nous dit, ni la grâce qui nous a été faite de nous amener dans une faveur aussi grande, aussi précieuse. Et Joseph, le vrai Joseph, que cet homme oublia. Il ne se souvint pas de Joseph. Ô Éternel, le désir de notre âme n'est-il pas après ton nom et après ton souvenir?
Dans l'évangile de Luc au chapitre 24, nous trouvons l'un des femmes, le premier jour de la résurrection, qui aimait beaucoup le Seigneur. Et pourtant, il y a un danger à ne pas se souvenir de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Quel était ce danger pour elle? Eh bien, les anges qui sont là doivent dire à cette femme, souvenez-vous comment il vous parla quand il était encore en Galilée. Et malgré tout l'amour de leur cœur qu'elles avaient pour le Seigneur, ces anges doivent dire à ces femmes, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Le danger de ne pas se souvenir de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, c'est de le chercher là où il n'est pas. Et dès que les anges ont rappelé aux femmes les paroles du Seigneur Jésus lui-même, qu'est-ce que nous voyons? Elle se souvint de ses paroles. Et puis, elle s'en va.
Dieu a donc souffert jusqu'à la mort, doit aussi les ressusciter. Il y a aussi la pensée de la souffrance de notre Seigneur, le souvenir de ce que le Seigneur a connu, du chemin suivi, avant de réaliser la puissance de la résurrection et d'être exalté à la droite du Père. Et l'apôtre Paul, n'est-il pas dans ces versets un serviteur caractérisé par ce souvenir constant de son Seigneur ressuscité? Il est dit en effet, selon mon évangile, dans lequel j'endure des souffrances jusqu'à être lié de chaînes, comme un malfaiteur. Toutefois, la parole de Dieu n'est pas limitée. Il endurait les souffrances. Au verset 10, il y a également ce verbe, c'est pourquoi j'endure avec la pensée d'une patience régulièrement réalisée. J'endure tout pour l'amour des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qu'est dans le Christ Jésus avec la gloire éternelle. L'apôtre réalisait ce souvenir de la personne de Jésus-Christ. Elle est amenée à réaliser au travers des souffrances, souffrances dont nous n'avons pas d'idée, qu'il endurait, tel qu'un malfaiteur, lié de chaîne. Mais il se réjouissait parce que la parole de Dieu n'était pas liée, il était encouragé à tout endurer pour l'amour des élus. Les élus lui étaient très chers et ils ne poursuivaient qu'un but, c'est l'obtention pour eux, les élus, du salut qui est dans le Christ Jésus avec la gloire éternelle. Le salut d'une part, la gloire éternelle d'autre part, le salut, extrémité première de ce qu'est la vie chrétienne, la vie nouvelle, et puis la gloire éternelle, l'autre extrémité de notre vie nouvelle, nous entrerons dans la gloire éternelle. C'était là ce plan de Dieu et l'apôtre.
Ainsi, le résultat, c'était que des frères ont pris confiance par ses biens et avec beaucoup plus de hardiesse annonçaient l'évangile. L'ennemi était confondu. Dieu opérant à travers même les liens de l'apôtre, la parole était répandue et l'ennemi, comme nous le disons ailleurs, fait une œuvre qui trompe. Ici, dans sa deuxième captivité, on vient de l'entendre, il endure tout. Pour l'amour des élus, dans la note, afin qu'ils ne soient pas privés de ce salut, qui est le salut final, comme on l'a entendu, la gloire en laquelle nous allons entrer avec Christ. Dire qu'il ait réalisé telle chose, enduré tout pour l'amour des élus, peut-être on l'a comparé à Jérémie qui a beaucoup pleuré sur la ruine de la fille de Sion et qui a versé beaucoup de larmes. Paul aussi a pleuré beaucoup, mais pour son maître, il a tout enduré, il suit de près le divin modèle dans son chemin de souffrance et de réflexion. Mais la parole de Dieu n'est pas liée, comme lors sa première captivité. Ici aussi, la parole de Dieu n'est pas liée. Dieu fait son œuvre, même si le serviteur est en prison.
Voilà, ces trois expressions. L'amour des élus, les élus, le salut et la gloire éternelle. Toute la grandeur, l'ampleur du propos de Dieu, d'une éternité et de l'éternité passée, élus en vie, avant la fondation du monde, sauver le salut, c'est le temps présent. Et puis, l'avenir, un avenir assuré, la gloire éternelle.
Comme montrant l'exemple à Timothée, il dit que le connaître lui et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances étant rendu conforme à sa mort. Voilà Paul, n'est-ce pas, que sans la puissance, il y a la résurrection du Christ, mais pas seulement la résurrection. Dans son effet dont on a parlé, il y a une puissance dans cette résurrection du Christ. Et Paul a été attiré par cette puissance qu'il désirait réaliser. Et il dit, étant rendu conforme à sa mort, voilà les souffrances qu'il devait traverser. Il en parle dans cette épître, comme nous l'avons vu. Et plus tard, il peut penser au résultat de ses souffrances. Il devait être rendu conforme à sa mort. Si en quelque manière ce soit, je puis parvenir à la résurrection d'entre les morts. Voyons là le résultat qui sera atteint par ce chemin d'obéissance, de renoncement, de souffrance, et finalement une résurrection d'entre les morts, qui est vue ici comme le résultat même des efforts que Paul devait traverser, devait connaître dans ce chemin d'obéissance qu'il suivait et qu'il recommande également à Timothée.
C'est d'ailleurs les conséquences de sa conversion. Il saisissait qu'un chrétien est lié à la gloire du Seigneur. Et que, ainsi, sa part éternelle, c'est d'être avec Christ l'homme. C'est pourquoi, dans le chemin dans lequel il était engagé, rien ne pouvait le détruire. Les souffrances qu'il était appelé à endurer ne pouvaient pas l'arrêter. Il avait saisi sa place en Christ là-haut dans la gloire et tout son être tendait vers ce. Il exprimait cela dans une expression que nous connaissons bien tous par cœur, qu'il tendait avec effort vers le but pour le prix de la paix céleste dans le Christ Jésus. Rejetant toutes les choses qui étaient derrière. Eh bien, voilà donc un exemple. C'est pourquoi il pouvait dire, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Il n'y a que Paul qui pouvait dire cela. Il n'y a que Paul. Et ce qui est important ainsi pour nous, c'est de pouvoir davantage réaliser que nous sommes unis à un tel Christ. Quels prix auront les choses de la terre? Ça sera facile de les remonter. Le chose importante, c'est pas d'estimer les choses comme des. C'est pas rejeter les ordures, parce que des choses qui n'ont pas de prix. Mais la chose importante, c'est d'estimer les choses du monde comme des ordures. Comment je puis les estimer telles? C'est quand, à cause de l'excellence de la gloire de Christ Jésus, mon Seigneur. C'est pourquoi nous avons ainsi besoin un peu de suivre un peu plus près et l'apôtre, et par cela même, le parfait et divin modèle qui nous est donné.
En rapport avec ce que notre frère a rappelé concernant ces trois expressions, amour, salut et gloire éternelle, en fait, nous passons d'une éternité jusque dans l'autre. Est-ce que nous ne pouvons pas rapprocher le passage de l'Épître aux Romains au chapitre 8e, où il nous est parlé de ce que Dieu a appelé, prédestiné, appelé, justifié, glorifié? Rudolf Brockhaus, un des frères conducteurs du début du siècle en Allemagne, a écrit cette pensée que c'est là le seul passage qui, dans l'Épître aux Romains, nous parle des conseils de Dieu dans toute leur ampleur. Dieu passe d'une éternité jusqu'à l'autre éternité. Il semble qu'il y a une relation à établir entre ces deux passages, Romains 8 et 2 Timothée 2. Et on comprend qu'alors l'apôtre Paul termine ce passage de Romains 8 en disant que je suis assuré que personne ni rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus.
En rapport avec l'évangile de l'apôtre Paul, selon mon évangile, il n'y a pas un évangile différent pour chaque apôtre, bien entendu, mais on a fait remarquer que Paul emploie souvent l'expression « mon évangile ». Nous ne trouvons pas d'évangile sous la plume de Luc, de Jean, de Jacques, de Pierre, sauf une fois, et exceptionnellement dans Matthieu et dans Marc, pour des raisons que le lecteur attentif peut bien apprécier. Mais l'évangile est un terme relatif à l'enseignement de l'apôtre, précisément en relation avec le conseil de Dieu, qui ne se limite pas au salut par la foi, mais en effet à tout ce que Dieu a conçu en lui-même en faveur de l'homme, l'associant à Jésus, Fils de l'homme glorifié. Depuis le salut, la justification par la foi, la faveur dans laquelle il se trouve maintenant, et se glorifier dans l'espérance de la gloire de Dieu. Premier verset de Romains 5 également. C'est un tout complet. Mon évangile, allant d'une éternité à l'autre en effet. D'autre part, n'est-ce pas un signe absolument significatif de l'état du monde qu'un serviteur de Dieu, prêchant l'amour de Dieu, la paix, la soumission aux autorités, le caractère d'étranger, inoffensif pour les autorités, rien de subversif, quelle qu'elle soit, nous invitant à nous soumettre comme il sied, comme il convient pour Dieu, mais n'est-ce pas significatif que pour le monde, d'avoir ici son caractère pleinement établi, entièrement démasqué, chargé de chaîne, un homme tel que l'apôtre, qui pour le monde n'apporte rien qui lui porte ton bras en quoi que ce soit. Mais rien que parce qu'il est témoin de Christ, chargé de chair, n'est-ce pas là une manifestation de l'état réel du monde dans son inimitié contre Dieu?
De Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous, frères et du Seigneur, puisque Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Voilà bien, dès le commencement. Pour que vous obteniez dans la sainteté de l'esprit la foi de la vérité, à quoi il vous a appelé par notre évangile, à l'appel présent, pour que vous obteniez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je pense que on trouverait dans les épîtres de Paul en particulier, dans le Testament en général, bien des passages qui lient ainsi ces trois choses. Dans cet appel de toute éternité, la réalisation dans le temps présent, le but, la gloire à nous. Et là encore, il est bien précisé que cet appel, pratiquement dans le temps présent, il a lieu par notre évangile, l'évangile de Paul, de Sylvain, puisque et Sylvain et Timothée, notre évangile, mon évangile. Le moyen par lequel Dieu, le moyen que Dieu emploie pour réaliser dans le temps présent ce qu'il a conçu dès l'éternité passée, avec un but final, la gloire à Dieu. L'évangile, c'est le moyen présent.
Dire que dans le passage de la première épître à Timothée, nous avons la définition suprême de ce qu'est l'évangile selon la pensée de Dieu. Quand il est parlé de l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, il semble que l'on ne puisse pas dire davantage quelque chose de plus élevé que cela pour définir ce qu'est l'évangile, cet évangile qui a été confié à l'apôtre Paul quand il dit mon évangile ou notre évangile. L'évangile que nous prêchons est l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Et n'est-il pas nécessaire que nous nous en souvenions quand nous présentons l'évangile et en des temps où, par besoin d'activité, quelquefois d'hyperactivité, on parle d'évangile, et encore d'évangélisation, et il semble que l'on oublie les autres formes du ministère selon la pensée de Dieu. On ne parle que l'évangile. Sommes-nous toujours conscients, quand nous prêchons l'évangile, que véritablement c'est l'évangile de la gloire, l'évangile qui révèle la gloire de celui qui est Dieu bienheureux, le seul à pouvoir porter un tel titre, il est le Dieu bienheureux. La conseil suprême de la grâce est qu'un tel Dieu a voulu rendre et veut rendre participants les êtres tels que nous sommes par nature à un tel bonheur. Il veut faire de nous, il a fait de nous dans sa grâce, il veut faire de qui qu'on le croit, quelqu'un d'heureux, bienheureux et éternellement bienheureux. C'est cela l'évangile. Alors, étant conscient de la grandeur d'un tel évangile, nous le prêcherons aussi en conséquence. L'apôtre Paul en avait pleinement conscience, faut-il le dire, quand il dit « moi, un blasphémateur, un outrageux, un persécuteur, un tel homme, Dieu a pu accorder un tel service, il m'a établi dans le service, il m'a confié un tel évangile ». Alors l'apôtre ne pourra dire à deux reprises, mais miséricorde m'a été faite. Mais miséricorde m'a été faite. C'est cela l'évangile, l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux.
C'est essentiellement, l'évangile est essentiellement la bonne nouvelle. Et que le sens du mot reste toujours devant nous, n'est-ce pas? Et en effet, quel nom que Dieu donne à son message de nous? C'est pour les hommes une bonne nouvelle. Faut-il y en avoir une meilleure?
On vous annonce à vous aussi qui êtes à Rome l'évangile. C'est un assemblée que produit. Et La note de Romains chapitre 1er, verset 15, nous dit, à la note du mot évangile, en effet, la bonne nouvelle. Je suis tout prêt à vous annoncer l'évangile, la bonne nouvelle, à vous qui êtes à revenir du besoin de leur présenter le salut par grâce, des désormais. Connaissez le Seigneur, le pardon de leurs péchés, le salut par grâce, mais la bonne nouvelle, l'activité du cœur de Dieu en exercice envers le croyant.
Attention, j'endure tout. Et en élevant le sujet, est-ce qu'on ne pourrait pas rapprocher pour le tout, nous en pensant au Seigneur, il a enduré la croix, ayant méprisé la honte. Est-ce que nous entrons un peu dans cette expression des Brudeaux, il a enduré la croix? Évidemment, là, il s'agit du salut que lui seul pouvait accomplir. Mais nous pouvons bien dire que le serviteur suivait de près les traces du maître. Qui a souffert comme Paul pour l'amour des élus?
Dans le même passage, une telle contradiction de la part des pécheurs contre lui-même. Il n'y a que de lui que l'Esprit de Dieu peut parler ainsi. On a cité Jérémie tout à l'heure, l'Esprit de Dieu, malgré les souffrances de Jérémie qui s'approche de si près, qui approche de si près celle de Christ, souffrant pour la justice. L'Esprit de Dieu ne dit jamais de Jérémie, il a enduré une telle contradiction de la part des Juifs contre lui-même. Il a enduré la croix, il a enduré une telle contradiction. Les deux choses se vérifient également chez l'apôtre.
Et si le chemin, c'est le chemin de la souffrance, pour Paul, à la suite du Seigneur, le mobile est le même, n'est-ce pas? Pour l'amour. Pour l'amour.
Que si nous voulons suivre le Seigneur, nous rencontrerons la souffrance. Plus nous serons pratiques, plus nous serons dans le sanctuaire, et plus nous souffrirons de tous les états de la chrétienté évidemment. Pour souvenir aux uns de ces exercices que nous devons connaître, ce serait bien grave si devant un tel état de témoignage, nous restions indifférents. Ce serait très bien. Mais pour nous soutenir dans tous ces exercices que nous sommes appelés à connaître, il nous faut, comme l'apôtre Paul, qui était soutenu dans tous ces combats, être tout près de Christ, réaliser sa communion et sa dépendance. Nous pouvons, en voyant la façon dont nous sommes installés dans le monde, combien peu nous rencontrons cette opposition, combien peu nous réalisons ce que l'apôtre réalisait et ce que notre Seigneur ne parle pas de son œuvre, mais de sa marche dans ce monde, alors qu'il n'avait pas un lieu pour reposer sa tête, et qu'il était l'homme de douleur, sachant ce que c'était que la langueur. Et c'est un tel modèle, comme chrétien, comme croyant, qui est placé devant nous. Reconnaissons que nous sommes bien loin de suivre ainsi un peu ses traces pétillantes. Et si nous voulons au milieu de tel et tel jour de la chrétienté être fidèle, il y aura une opprobre qui se manifestera par l'opprobre peut-être violente qui se manifeste dans de tels pays, mais une opprobre sournoise de la part de ceux au milieu desquels nous nous trouvons. Plus nous serons fidèles et plus nous connaîtrons l'isolement. Vous bien pensez ça? Parce qu'il est important de comprendre justement que ce que le Seigneur disait et à son père, à notre égard, ce que nous réalisons si mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Hélas, comme dans le manifeste.
Paul est certain, est-il dit au verset, onzième, cette parole est certaine, cela a déjà été rappelé dans les journées de Pentecôte. À cette reprise, nous avons cette expression, cette parole est certaine, ou ces paroles sont certaines, dans les épîtres dites pastorales, c'est-à-dire à Timothée et à Tite, et puis dans le livre de l'Apocalypse. La première fois que nous avons cette parole certaine, c'est en rapport avec le salut dont nous parlons, que nous avons rappelé dans le Cantique. Quand il est dit au verset 15 du premier chapitre, cette parole est certaine et digne de toute acceptation, que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont moi, je suis le premier. C'est la parole première en rapport avec le salut opéré par Jésus-Christ en faveur de quelque pécheur que ce soit. Au chapitre 3e, nous avons la deuxième parole certaine en rapport avec l'ordre qui convient dans l'Assemblée. Premier verset, cette parole est certaine que si quelqu'un aspire à la surveillance, il désire une œuvre bonne. Il faut donc que le surveillant soit irrépréhensible. Et la troisième fois dans ce premier épître, c'est au chapitre 4e, au verset 9e, cette parole est certaine et digne de toute acceptation en rapport avec la piété qui est utile à toute chose, ayant la promesse de la vie présente et de la vie qui est à venir. Puis nous avons notre passage en rapport avec un tel salut et une telle joie éternelle, et dans l'épître à Tite. Nous avons le cinquième passage, il nous est dit au verset 8 du chapitre 3, cette parole est certaine et je veux que tu insistes sur ces choses afin que ceux qui ont cru Dieu s'appliquent à être les premiers dans les bonnes œuvres. Ces choses sont bonnes et utiles aux hommes. Cette parole est certaine et bien en rapport avec ce plan magnifique du salut de Dieu que nous trouvons dans les versets qui précèdent et dont on a parlé à l'appui d'autres passages. Et enfin, au livre de l'Apocalypse, en rapport alors avec la gloire et la gloire éternelle, au chapitre 21 du livre de l'Apocalypse, il nous est dit ceci, « Voici, je fais toutes choses nouvelles, et il me dit écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et au chapitre 22e, verset 6, il me dit, ces paroles sont certaines et véritables en rapport avec l'avenir glorieux du croyant. Il y a certainement tout un sujet en soi, dans ce sujet des paroles certaines. Cette fois, nous avons cette expression, la première fois en rapport avec le salut, et la dernière fois, les dernières fois, en rapport avec la gloire éternelle. Nous sommes sauvés, nous en allons, le chemin de cette vie nouvelle, en rapport avec l'Assemblée, comme en rapport avec notre témoignage personnel, la piété, pour alors en arriver à cette gloire éternelle que nous attendons et qui va être bientôt manifestée. L'homme cherche ce qui est vrai. L'homme cherche ce qui est certain par tous les moyens, en fait, il n'a pas trouvé ce qui est vrai, il ne trouvera jamais ce qui est certain, absolument certain, parce que cela, il le cherche en dehors de la parole de Dieu. Ta parole est la vérité, et seulement dans la parole de Dieu, on trouvera ce qui est certain, éternellement certain. Par la quatrième fois, remarquable que ce soit en rapport avec la responsabilité. Première fois, point de départ, l'évangile, la grâce de Dieu, point d'arrivée et d'avoir, et au centre, la quatrième fois, où nous avons cette parole certaine, c'est dans notre verset, en relation avec ce qui nous concerne sur le quai de la responsabilité. Absolument, pensée glorieuse, la grâce de Dieu, nous sommes heureux de nous en occuper, et puissions-nous nous en occuper toujours davantage. Mais il y a, mon frère souligne maintenant, cette pensée de la responsabilité, qui est très nettement liée à ce qui précède, ce plan de la grâce de Dieu par la conjonction car, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous souffrons, nous régnerons avec lui. C'est la pensée de notre responsabilité, mais il y a la pensée de l'encouragement dans la réalisation de cette responsabilité. Nous sommes morts avec Christ, nous vivrons avec lui. Cette vie éternelle, présentée plusieurs fois dans les écrits de l'apôtre Jean, cette vie vers laquelle nous tendons. Et puis, s'il y a souffrance sur la terre, et qui sommes-nous pour le dire, quand nous pensons à ce que l'apôtre Paul a souffert, eh bien, nous régnerons avec lui. C'est comme si Paul disait à Timothée, je souffre beaucoup, j'endure beaucoup pour l'amour de Jésus. Et Timothée, après mon départ, tu souffriras toi aussi. Mais n'oublie jamais ce rêve qui nous attend. Nous souffrons avec le Christ maintenant, tu souffriras toi-même avec lui, mais aussi nous régnerons un jour avec lui. Nous ne connaîtrons pas toujours la souffrance, l'amour pouvait le dire, Timothée pouvait le réaliser un jour. Nous connaîtrons la gloire, nous partagerons avec le Seigneur son autorité. Nous régnerons avec lui.
Lorsqu'il est dit que nous serons avec lui, étant liés par nos corps à l'ancienne création, le chrétien souffre évidemment, il ne peut pas échapper à cette souffrance. Mais est-ce qu'ici, il n'y a pas aussi la pensée de souffrir pour lui? La suite dans sa réjection, en connaissant sa réjection. Dans Romains 8, c'est clair, personne n'échappe à cette souffrance du temps présent parce que nous sommes dans des vases de terre liés à une création gâtée, souillée. Mais ici, il est dit, souffrons, non pas avec ni pour, ou dans la note, durons.
Nous donne sa croix. Demain, il nous donnera la paix. Le Seigneur est entré dans la gloire en passant par la croix. C'est le choix. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il prenne sa croix chaque jour, qu'il se renonce soi-même, devant Dieu, devant le Seigneur, sans bruit, étant content de savoir que le Seigneur seul le sait, qu'il se renonce à soi-même et qu'il me suit. Et demain, nous partagerons la gloire du grand vainqueur de la mort, et le grand vainqueur, en passant à travers un monde, c'est un grand vainqueur. Il a été vainqueur sur la croix, mais il a été vainqueur en traversant ce monde. Et c'est un tel Seigneur, un tel vainqueur que nous sommes appelés à suivre. Et maintenant, c'est la souffrance. C'est la souffrance. Demain, ça sera la gloire avec lui.
Et dans l'offrande de gâteau, une image bien saisissante des différentes souffrances de Christ. Que peut-être à rappeler brièvement. L'offrande de gâteau, nous savons bien que c'est une image si belle du Seigneur Jésus, faite de fleurs de farine, de fines fleurs de farine, pétries à huile, vin de huile, avec tout l'encens, dont un gâteau était cuit à l'autel, était brûlé sur l'autel après avoir été cassé en morceaux. Cette offrande, elle était d'abord. Veut d'abord être cuite sur la plaque, chacun pouvant considérer ces deux cuissons. Seigneur a souffert pour la justice. Je n'ai point scellé la justice. J'ai annoncé ta justice dans la grande congrégation au Invernel, tu le sais, attirant sur lui la haine des anciens, la haine des hommes religieux qui démasquaient dans leur hypocrisie, dans leur fausseté. Seigneur a souffert pour la justice, témoin fidèle et véritable. L'offrande cuite sur la plaque. L'offrande était également cuite dans une toile, dans une enceinte bien peu réduite. Et nous entrons dans la maison de Béthanie, dans le cercle bien plus étroit de la famille de la foi, avec laquelle le Seigneur partage la souffrance qu'ils éprouvent dans ce jour-là. Jésus pleura. Il court verset du Nouveau Testament pour nous montrer la souffrance du Seigneur en sympathie avec les siens. Non plus pour la justice, mais en sympathie avec les siens. On a dit également, on a rappelé également que l'offrande était cuite, pouvait être cuite dans le four. Là, c'est une scène, c'est une sphère encore bien plus réduite. Les trois disciples seulement ont pu approcher un jet de pierre des souffrances qui l'ont amené à se jeter sur sa face et à suer des gouttes comme des grumeaux de sang. Souffrance par anticipation de la foi. Souffrance illustrée par l'offrande cuite dans la foi. Nous pouvons connaître en partie et en communion avec lui deux de ces trois souffrances. Une souffrance pour la justice et la souffrance en sympathie avec ceux qui souffrent. Je vais rappeler Romains 8, si du moins nous souffrons avec lui. Est-il possible qu'un croyant dans une scène de désordre comme celle dans laquelle nous vivons n'ait pas à connaître la souffrance bien des formes pour la justice et en même temps en sympathie? Pour lui, il a souffert parfaitement pour la justice, en sympathie, anticipant la foi. Et que dire des trois heures de ténèbres lorsque l'épée de Dieu est sortie du fourreau? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour que nous obtenions avec lui la gloire éternelle. Sorte que nous revenons à ce point de départ, si nous souffrons avec lui, nous réglons avec lui. Vous excusez d'être peut-être un peu long, mais on a aussi trouvé une très belle image de cela dans l'Ancien Testament. À l'entrée du temple, il y avait deux colonnes, Boaz et Jacques. Elles comportaient des chapiteaux qui étaient ornementés, disons-nous, en ouvrage de lys, comme dans le portique. Et nous lisons que la maison fut achevée et que l'ouvrage des colonnes fut achevé. Deux termes identiques pour nous montrer l'achèvement de la maison de Dieu et pour nous montrer l'achèvement des colonnes dans leur ornementation. Un cher serviteur de Dieu, que ceux qui sont un peu âgés parmi nous ont bien connu, dont ils se souviennent avec bonheur de la richesse de son ministère, pouvait dire: où a-t-on pris le lys? Eh bien, le lys, image du croyant, revêtu de la justice de Dieu, la belle robe, incomparable dans sa beauté, dans sa magnificence. Salomon n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Mais le lys se trouve dans la vallée, au milieu des épines, revêtu de toute la beauté que Christ lui a acquise, mais dans un milieu qui lui est étranger, au milieu des épines, dans la vallée, vallée de Baca. Il n'y a point de soleil, l'on verse des larmes. Mais ce lys que l'on cueille dans la vallée, au milieu des épines, Dieu l'élève pour ornementer des chapiteaux, des colonnes qui sont dans le temple de Dieu. Et il est dit comme dans le portique. Comme le portique était ornementé, moi je suis la porte, le portique image si belle de Christ. Comme dans le portique, les chapiteaux des colonnes en ouvrage de lys annonçait déjà ce que Paul nous dit. Si nous souffrons avec lui, nous avons régné avec lui.
On a vu qu'il dira à ce sujet, j'estime, les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées avec la gloire à venir qui doit être vue. Pas de comparaison possible. Les souffrances du temps présent et la gloire. Il semble que dans 2 Corinthiens 4, il y a déjà un fruit produit en nous, pour nous, dans la tribulation. Notre légère tribulation d'un moment, légère ou d'un moment, opère pour nous, en mesure surabondante, un droit éternel.
Voilà ce qui nous permet de réaliser cette position à l'égard du monde comme étranger. Nous sommes pas de nous, nous sommes des habitants du ciel. Notre chez-nous est là-haut. Dans un sens, notre Seigneur, quand il a quitté le monde, il proclamait que son chez-soi était là-haut. Il va vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. C'est notre place là-haut. Et la foi se met là, entre cette marche céleste, cette marche chrétienne, et le monde. Et puis il y a une autre chose, nous n'en doutons peut-être pas assez, on en parle maintenant très peu. Il y a une chose qui nous fait bien et qui amène beaucoup de faiblesse dans notre vie chrétienne et dans la marche de l'Assemblée. C'est l'activité du moi sur tous ces hommes. C'est ça. Et en réalisant ainsi, en portant sa foi, on réalise aussi pratiquement, c'est pas le fait de le connaître, mais on réalise aussi pratiquement que je suis mort dans mes pensées. Où est-ce qu'on veut réaliser le néant du moi et que ce moi cesse en tout cas son activité, c'est dans la présence de Dieu. C'est dans la présence du Seigneur. Et tout cela comporte un exercice constant de nos parts, parce que Dieu veut la vérité dans leur intérieur et sait bien ce qui se passe dans le cœur. Dieu ne nous donne pas une vérité pour que nous la gardions simplement comme un terme de notre intelligence. Si Dieu nous donne une vérité, c'est qu'il faut qu'elle ait une heureuse influence sur notre vie et notre marche chrétienne. Il faut que cette vérité touche et atteigne et nos cœurs et nos consciences et devant Dieu. Le dîner, c'est pour dire et devant Dieu. Dans sa présence, quand j'entends une vérité, je dois dire devant Dieu où est-ce que j'en suis à l'égard de cette vérité.
La tribulation sont encourageants à constater. En Romains 5, il est parlé de la tribulation qui produit la patience. Dans le passage que nos frères ont cité, nous voyons cette tribulation qui fortifie l'espérance. Et puis alors, dans la première épître aux Thessaloniciens, ces jeunes frères avaient reçu la parole, avaient accompagné de beaucoup de tribulations avec une grande joie. Patience, espérance et joie. Voilà quelques-uns des fruits produits par la tribulation que l'apôtre Paul a si intensément connu. Il passe, pas sans raison, que nous trouvons souvent ce verbe endurer dans cette alinéa. Et nous pensons bien, comme notre frère l'a souligné tout à l'heure, il s'agit essentiellement de souffrir pour Christ dans ce passage. Si nous endurons de telles souffrances, comme l'apôtre Paul le faisait, comme Timothée était appelé à le faire et allait le connaître un peu plus tard, il s'agit essentiellement de souffrir pour Christ. Alors si nous souffrons pour Christ, si nous acceptons cela, alors nous régnerons avec lui. Et il est ajouté, comme une espèce de contrepartie, et si nous renions, c'est comme si la peau disait, mais alors, si nous le renions, lui aussi nous reniera, parole fort solennelle. Si une parole semblable s'adresse à des incrédules, on n'est pas du tout étonné d'avoir le contenu, mais le Seigneur Jésus a dit, au jour de l'Évangile, il a dit que celui qui renierait son nom, eh bien, son nom sera relié devant les anges de mon Père qui est dans les cieux, n'est-ce pas, dans l'Évangile selon Luc. Il y a là une parole qu'il faut voir simplement sous jour de responsabilité, comme il a été souligné tout à l'heure. As-tu relié le Seigneur? Qu'est-ce que c'est que relié le Seigneur? C'est dire, je ne connais absolument pas. Cet homme, un disciple a dit un jour, cet homme, je ne connais pas du tout. Cela est relié le Seigneur. Alors la conséquence, selon le gouvernement de Dieu, eh bien c'est que toi-même un jour tu seras relié.
Quand on s'engage dans un chemin, la parole ne peut pas ne pas dire où ce chemin se termine. Si je relie le Seigneur, ce chemin se terminera. Dans cette parole solennelle, le Seigneur nous reconnaît. Si nous marchons selon la chair, nous mourrons. C'est déclaration. Dans Philippiens, nous avons aussi cette solennelle déclaration. Ceux qui sont ennemis de la croix du Christ, ils vont vers quoi? Vers la perdition éternelle. La parole de Dieu ne peut pas nous pas dire ce chemin-là, et bien voilà où il se termine. Mais alors, qu'est-ce qu'il a fait? C'est que lorsqu'on est un racheté, lorsqu'on est un croyant, lorsqu'on est un enfant de Dieu, la grâce intervient. Le Seigneur a prié pour Pierre. Pierre avait renié son maître, et le Seigneur avait prié pour Pierre, et Pierre a été restauré, il a été comme arrêté dans son. Et la grâce intervient pour les enfants de Dieu. Vous repérez, c'est un travail que la grâce seule peut faire, comme certainement, comme conséquence de l'intervention constante de notre souverain sacrificateur, qui intercède et prie pour nous. Cela ne diminue en aucune manière la responsabilité qu'est la nôtre. Souligné dans la parole, toujours par les signes. Quand il s'agit de notre salut, quand il s'agit de notre bonheur éternel, quand il s'agit de notre place là-haut en Christ, il n'y a pas de signe. Ce n'est pas notre nom. Nous l'aurions perdu durant longtemps. Mais ça, ce sont des certitudes, parce qu'elles reposent à la fois sur les conseils de Dieu et sur l'œuvre de la croix. Et quand il y a les signes introduits dans la parole, ce sont la responsabilité de la marche chrétienne, où la grâce d'un sauveur qui ne nous oublie jamais est propre ainsi à nous arrêter, à nous restaurer et à nous ramener.
Dans notre entretien de cet après-midi, nous disons encore un mot sur cette dernière parole du verset 13. Si nous sommes incrédules, lui demeure fidèle, car il ne peut se relier lui-même. Nous, l'incrédulité, du côté de Dieu, la fidélité. Si nous sommes incrédules, lui demeure fidèle, car il ne peut se relier lui-même. Au jour de l'Ancien Testament, un prophète a parlé de la ville de Jérusalem. Il donne quatre caractères de la fidélité de cette ville, et un petit peu après, quatre caractères de la fidélité de Dieu, malgré tout, malgré non seulement la fidélité, mais la crédulité de cette ville. Ce prophète Sophonie, quels sont les caractères, ces quatre caractères concernant la ville de Jérusalem, chapitre 3 de son livre. Premièrement, elle n'écoute pas la voix sous-entendue de son Dieu. Deuxièmement, elle ne reçoit pas l'instruction. Troisièmement, elle ne se confie pas en l'Éternel. Et enfin, quatrièmement, elle ne s'approche pas de son Dieu. Et pas terrible que celui-là. Et pourtant, l'Éternel était là, au milieu de cette ville. Alors voici les caractères de Dieu lui-même au verset 5. L'Éternel juste est au milieu d'elle. Il ne commet pas l'iniquité. Troisièmement, chaque matin, il met en lumière son juste jugement. Et quatrièmement, il ne fait pas défaut. C'est véritablement le Dieu fidèle. Il ne fait pas défaut, il est le Dieu fidèle. Nous pouvons être infidèles, mais du côté de Dieu, jamais. Il ne fait pas défaut, il demeure fidèle, il ne peut se renier lui-même.
On peut citer à la suite de la parole, Dieu demeure fidèle. C'est ce que nous trouvons dans le livre d'Esther, à propos de ces Juifs, qui par manque de foi n'étaient pas remontés à Jérusalem. Dieu est fidèle, il ne les abandonne pas. Sans doute, il cachait son nom pendant ce livre, comme chacun ici. Mais il veille parce qu'il est fidèle, même s'ils ont manqué de foi pour remonter à la vie sainte. Dieu, lui, ne change pas, il demeure.
Démonstration de cette réalité que Dieu est fidèle, et en particulier vis-à-vis de son peuple.